La vie ne peut trouver de raison de continuer, ne peut être une source de considération décente et mutuelle que si chacun de nous a décidé de lui insuffler ces qualités-là. Chenoé, conversation avec Leto II. Edley Tuek, grand prêtre du dieu fractionné, était de plus en plus furieux contre Styros. Bien que trop vieux pour aspirer lui-même à la dignité de grand prêtre, Styros avait des fils, des petits-fils et d'innombrables neveux. Il avait reporté ses ambitions personnelles sur sa famille. C'était un personnage cynique. Il représentait au sein du clergé une faction puissante qui se faisait appeler « communauté scientifique » et qui avait une influence aussi insidieuse qu'envahissante. Elle était en fait dangereusement proche de l'hérésie. Tuek se gardait d'oublier que plus d'un grand prêtre s'était perdu dans le désert à l'occasion d'un regrettable accident. Styros et ses amis étaient bien capables de ménager pour lui un semblable épisode. C'était l'après-midi à Kyn, et Styros venait de le quitter, visiblement en proie à la plus grande frustration. Styros voulait que Tuek se rende personnellement dans le désert pour y observer ce que ferait Shyana. Suspicieux, Tuek avait décliné l'invitation. Une étrange discussion avait suivi, pleine de sous-entendus et de vagues allusions au comportement de Shyana, sans compter de longues diatribes contre le Bene Gesserit. Styros, qui se méfiait toujours des sœurs, avait immédiatement conçu une vive antipathie à l'encontre de la nouvelle commandante de la citadelle du Bene Gesserit sur Rakis. Cette... Comment s'appelait-elle? Ah oui. Odrad. Un drôle de nom. Mais les sœurs s'en donnaient souvent de plus étranges encore. Nul ne songeait à le leur reprocher au demeurant. Dieu lui-même n'avait jamais remis en question l'existence propre du Bene Gesserit. Il avait critiqué certaines sœurs, oui, mais l'ordre dans son ensemble avait toujours partagé la vision sacrée de Dieu. Tuek n'aimait pas la manière dont Styros parlait de Shyana, un peu trop cynique à son goût. Finalement, il l'avait fait taire à force de sentences percutantes prononcées ici, dans le Saint des Saints, avec son maître-autel et ses images sacrées du dieu fractionné. Des relais de faisceaux prismatiques faisaient danser de minces traits de clarté dans les vapeurs d'encens à base de mélange qui baignaient le double alignement de colonnes menant à l'autel. Tuek avait la certitude que par ce dispositif, ses paroles montaient directement à Dieu. Dieu agit par l'entremise de notre nouvelle Siona, avait-il dit à Styros en notant la perplexité qui se peignait sur le visage du vieux conseiller. Shyana est le vivant rappel de Siona, cet instrument humain dont Dieu s'est servi pour atteindre son présent état de fractionnement. Styros enrageait. Il avait dit des choses qu'il n'aurait jamais osé répéter devant le conseil au complet. Il présumait trop de sa longue collaboration avec Tuek. « Je vous dis que ce n'est qu'une enfant entourée d'adultes qui ne cherche qu'à s'attirer ses bonnes grâces et celles de Dieu. » Tuek ne pouvait pas laisser passer de telles paroles. Mais Styros poursuivit d'une voix grinçante en se penchant vers lui. Elle est au centre d'un système éducatif connecté à tout ce que son imagination peut souhaiter. Nous ne lui refusons absolument rien. Et c'est normal. Comme s'il n'avait pas entendu, Styros poursuivit. Kania lui a fourni des enregistrements venant de Dar es Balat. « Je suis le livre de la destinée », récita Tuek selon les propres mots de Dieu dans les écrits sacrés. Précisément. Et elle les écoute d'un bout à l'autre. « En quoi cela vous trouble-t-il ? » demanda Tuek de sa voix la plus calme. « Ce n'est pas nous qui vérifions ses connaissances, c'est elle qui vérifie les nôtres. » « Dieu veut sans doute qu'il en soit ainsi. » Impossible de se méprendre sur la fureur amère qui s'imprimait dans les traits de Styros. Tuek observait en silence le vieux conseiller en train de rassembler mentalement de nouveaux arguments. Dans ce genre de débat, les ressources ne manquaient pas. Tuek ne songeait guère à le nier. Seule l'interprétation comptait. C'était justement la raison pour laquelle l'arbitrage final du grand prêtre était indispensable. Malgré, ou peut-être grâce à, leur manière de voir l'histoire, les prêtres de Rakis en savaient long sur les raisons qui avaient amené Dieu à résider sur leur planète. Ils possédaient Dar es Balat avec tous ses trésors, entre autres le plus ancien non-espace connu de tout l'univers. Durant des milliers d'années, alors que Shai Hulud transformait la verdoyante Arrakis en un désert nommé Rakis, Dar es Balat avait attendu patiemment sous les sables. Parmi tous ces trésors sacrés, les prêtres avaient découvert la propre voix de Dieu, ses écrits et même des holophotos. Tout cela était clairement expliqué et ils savaient que la surface désertique de Rakis reproduisait l'aspect original de la planète, celui qu'elle avait à l'époque où elle représentait la seule source connue d'épices sacrées.
« Elle pose des questions sur la famille de Dieu, » fit Styros. « À quoi peut lui servir de... »«
C'est pour nous mettre à l'épreuve. Est-ce que nous leur donnons la place qu'il leur revient ?» La révérende mère Jessica, son fils Mouad Dib, le fils de ce dernier, Leto II, c'est la triade sacrée du ciel.
« Leto II, »
murmura Styros.
« Et l'autre Leto, alors ?» Celui que les Sardaukars ont tué.
Faites attention, Styros, murmura Tuek. Vous savez très bien que mon arrière-grand-père s'est prononcé sur cette question en ces lieux mêmes.
Quand notre dieu fractionné s'est réincarné, une partie de lui-même est demeurée au ciel pour faciliter l'accession. Cette partie est devenue sans nom, comme il convient à la véritable essence de Dieu.
Ah.
Tuek avait perçu le terrible cynisme contenu dans la voix du vieillard. Les paroles de Styros semblaient vibrer dans l'air saturé d'encens, appelant sur lui les foudres divines.
Dans ce cas, pourquoi demande-t-elle de quelle manière notre Leto s'est transformé en dieu fractionné?
Poursuivit Styros. Mettait-il en doute la métamorphose sacrée? Tuek était sidéré. Il se contenta de répondre.
Elle nous éclairera le moment venu.
Nos piètres explications doivent la remplir de perplexité,
railla Styros.
Vous allez trop loin, prenez garde.
Vous croyez? Ne trouvez-vous pas étrange qu'elle pose aussi des questions sur la manière dont les truites des sables enclavent la majeure partie de l'eau de Rakis, recréant ainsi le désert?
Tuek faisait de vigoureux efforts pour dissimuler sa fureur croissante. Il était vrai que Styros représentait une faction puissante au sein du clergé, mais ses paroles et le ton qu'il employait soulevaient des questions auxquelles les grands prêtres avaient depuis longtemps répondu. La métamorphose de Leto II avait donné naissance à d'innombrables truites des sables qui portaient chacune un petit fragment de lui-même. De la truite des sables au dieu fractionné, la transition était connue et respectée comme un dogme. La remettre en question revenait à nier l'existence de Dieu.
« Vous restez là à ne rien faire, » accusa Styros. « Nous sommes de simples pions entre les mains de...
Suffit !»
Tuek avait suffisamment laissé s'exprimer le cynisme de ce vieillard. Se drapant dans sa dignité, il prononça les paroles de Dieu. «
Votre Seigneur sait parfaitement ce qu'il y a dans votre cœur. Votre âme suffit ce jour à vous dénoncer. Je n'ai pas besoin de témoins. Vous n'écoutez pas votre âme. Vous écoutez à sa place votre fureur et votre rage. »
Styros se retira alors, bouillant de frustration. Après avoir longtemps médité, Tuek se para de ses plus beaux atours d'or, de pourpre et de blanc. Puis il alla rendre visite à Shiana. Elle se trouvait dans les jardins suspendus qui surmontaient le bâtiment sacerdotal principal, en compagnie de Kanya et de deux autres personnes, un jeune prêtre nommé Baldik, qui était au service particulier de Tuek, et une prêtresse acolyte appelée Kipuna, qui se comportait un peu trop comme une révérende mère pour son goût. Le Bene Gesserit avait des espions ici comme partout, bien sûr, mais Tuek n'aimait pas s'en apercevoir. Kipuna avait pris en charge la majeure partie de l'entraînement physique de Shiana. Un lien spécial s'était créé entre l'enfant et la prêtresse acolyte qui suscitait la jalousie de Kanya. Mais même Kanya ne pouvait s'opposer aux volontés de Shiana. Les quatre étaient assis près d'un banc de pierre, presque dans l'ombre d'une cheminée d'aération. Kipuna tenait la main droite de Shiana, dont elle manipulait les doigts. L'enfant avait grandi, se disait Tuek. Cela faisait 6 ans déjà qu'elle était sous sa responsabilité. Il voyait percer sous sa robe un début de poitrine. Il n'y avait pas un souffle de vent sur les jardins en terrasse, et l'air était lourd dans les poumons de Tuek. Il regarda autour de lui pour s'assurer que ses ordres concernant la sécurité de l'endroit étaient bien respectés. On ne savait jamais de quel côté pouvait surgir le danger. 4 soldats de sa garde personnelle, bien armés mais de manière discrète, occupaient au loin les endroits stratégiques. Le parapet entourant le jardin était élevé et ne laissait dépasser que la tête des gardes. Le seul bâtiment plus haut que cette tour sacerdotale était le piège avant principal de Kin, à 1 kilomètre environ vers l'ouest. Malgré les preuves visibles que ces consignes de sécurité étaient intégralement suivies, Tuek avait une impression de danger. Était-ce Dieu qui voulait l'avertir? Il était encore troublé par le cynisme de Styros. Avait-il eu tort de lui accorder toute cette latitude?